Bonjour Jonathan, vous êtes diplômé d'un master en sciences de l'eau et d'un doctorat en géosciences. Vous avez débuté votre carrière professionnelle par la recherche. En 2019, vous avez choisi la Dordogne pour vous installer en tant que consultant et être ainsi au plus près des problématiques concrètes des territoires. Vous avez maintenu toutefois une activité de chercheur associé à l'École des mines de Paris Tech. Pour vous, je cite vos propos, l'eau est à la fois le moteur et le fil rouge de la transition écologique. Et pourtant, elle est souvent oubliée, ce que vous déplorez, dans les études de prospective, mettant plus l'accent sur les émissions de CO2 et oubliant que H2O est au cœur des systèmes naturels dont nous dépendons. Ma première question sera donc la suivante. Comment pouvons-nous redonner toute sa place aux enjeux de la gestion de l'eau dans une réflexion qui soit à la fois globale, transversale, qui prendrait en compte la gestion de l'eau et de son cycle, tout en la reliant avec les transformations des domaines de l'énergie et de l'alimentation?
Alors justement, dans votre question, il y a quelque chose de très important, c'est que l'eau, elle est absolument partout, dans tous nos aspects de la vie et aussi dans tous les secteurs stratégiques. Que ce soit l'alimentation, qui est évidemment très importante, pour faire pousser des plantes et donc des aliments, ou pour abreuver le bétail, il faut de l'eau. Il en faut beaucoup, a fortiori, pour nous alimenter. Mais c'est évidemment une nécessité absolue, donc c'est très stratégique pour le secteur de l'alimentation. Ça l'est aussi pour le transport. Pour fabriquer des voitures, il faut des métaux. Il va falloir même de plus en plus de métaux, puisqu'il faut maintenant faire des batteries, par exemple, ou des véhicules de plus en plus électriques, on espère. Donc pour cela, il va falloir extraire des minéraux et cette extraction de minerais utilise souvent beaucoup, beaucoup d'eau. Mais malgré tout aussi, pour extraire du pétrole, on utilise aussi beaucoup d'eau. Donc ça, les gens ne le savent pas toujours, mais dans le secteur énergétique, il y a beaucoup, beaucoup d'eau aussi qui est utilisée aussi, par exemple, pour refroidir des centrales thermonucléaires, par exemple, donc, qui est un aspect essentiel pour garantir la sécurité de ces installations. Donc voilà, dans le secteur énergétique, on pourrait en citer énormément, évidemment, le secteur sanitaire, le secteur, voilà, tous les aspects culturels, sociaux, patrimoniaux qui vont parfois se reposer sur l'eau, le tourisme, évidemment. En général, les touristes, ils vont rarement dans des régions où il n'y a absolument pas d'eau, sauf si c'est peut-être pour faire du tourisme dans le désert, ce qui peut arriver. Mais principalement, les touristes, ils aiment se baigner, donc ils vont se rapprocher des cours d'eau, des lacs, ou tout simplement des océans ou des mers. Donc l'eau a un aspect vraiment aidant, et dans tous les aspects de la vie, dans tous les secteurs. Donc c'est pour ça que cette importance de repenser la manière d'utiliser cette ressource, et elle est fondamentale. Je n'ai pas parlé de la biodiversité aussi, j'aurais pu en parler, qui est très importante. Nous, on est une espèce vivante à part entière et on ne peut pas se déconnecter du vivant. Et le reste du vivant, à part les êtres humains, ont besoin d'énormément d'eau pour fonctionner. C'est d'ailleurs, le vivant est le premier utilisateur des ressources en eau. Donc voilà, pour répondre plus précisément à votre question, comment repenser ça? Tout simplement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une trop grande déconnexion dans les politiques publiques entre tous ces secteurs, et il va falloir remettre du lien entre justement le secteur de l'eau, principalement, de l'agriculture et les secteurs énergétiques. Pour réussir une transition, il va falloir vraiment reconnecter toutes les questions, la législation liée à l'eau, à tous les autres enjeux, et pour l'instant, c'est beaucoup trop séparé.
Alors c'est un gros travail de remettre du lien entre ces trois secteurs. Concrètement, comment ça peut se faire, l'approche par la législation?
Alors, il y a le côté législatif, mais surtout, je pense que l'un des plus grands enjeux, c'est de resensibiliser d'une part les acteurs qui sont aux commandes, les institutions qui gèrent l'eau connaissent très bien leur secteur, mais ils connaissent peut-être un tout petit peu moins bien les autres secteurs. Évidemment, il y a toujours des liens et toujours des connexions, c'est pas totalement étanche, mais il faut se rendre compte que quand on applique une politique de l'eau, en général, aujourd'hui, on ne se pose pas la question quel sera l'impact dans les autres secteurs. Or, l'impact peut être très grand. On peut prendre un exemple peut-être. Si vous mettez en place un barrage sur un cours d'eau, évidemment, pour produire notamment de l'électricité. Donc, il y a vraiment une interconnexion entre le secteur énergétique, donc, puisque bien c'est sûr, une hein. énergie considérée comme renouvelable et très peu carbonée. Mais ça va complètement changer la manière dont le cours d'eau va évoluer et ça va potentiellement avoir un impact sur les habitants aux alentours, sur les écosystèmes en place, sur la manière dont les sédiments vont circuler dans le cours d'eau. Et donc, et tout ça, ce sont des aspects donc, transversaux. Et quand on pense à ça, on se dit, utiliser une énergie renouvelable, par exemple, l'hiver, c'est là où on en a le plus besoin, tant mieux, c'est aussi là où il y a le plus d'eau, mais on en a aussi besoin l'été, et là, c'est là où on a le moins d'eau. Donc comment on va faire quand le barrage il est à vide ou quand on ne peut pas ouvrir les vannes comme on veut puisqu'il faut garder des réserves d'eau pour que l'eau coule pendant toute la période d'étiage, donc la période où il y a les basses eaux, et ben, comment on fait pour en même temps avoir de l'électricité? Et ça, c'est des questions très compliquées qui ne sont pas toujours pensées totalement en amont.
Alors, comment vous expliquez justement qu'elles ne le soient pas pensées en amont? Est-ce qu'il faudrait apporter une information supplémentaire à nos élus notamment, à nos politiques qui décident de la politique de gestion de l'eau?
Alors, il y a tout un aspect sensibilisation auprès des élus, auprès de la population aussi, puisqu'évidemment, les élus ne se retrouvent pas là par hasard. Normalement, ils ont été élus. Du coup, la population peut avoir un vrai pouvoir pour orienter aussi ces décisions. Mais il y a aussi, on constate qu'en France en particulier et en Europe de manière générale, puisque beaucoup de législations sont européennes dans ce domaine, on fragmente énormément les compétences entre les différents échelons de décision. Et ça peut poser parfois des problèmes, justement, dans la mise en place de politiques publiques dans les différents domaines.
C'est-à-dire, concrètement, quand vous dites qu'on fragmente?
Alors, l'eau est gérée à plusieurs niveaux. Donc, par exemple, il y a tout ce qui est gestion des eaux et des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Ça, ce sont les intercommunalités qui ont cette compétence de gérer les cours d'eau, pour par exemple les entretenir pour préparer à d'éventuelles inondations, gérer le bon état écologique. Ça, c'est plutôt lié à l'agence de l'eau qui sont plutôt, alors pas au niveau des régions parce qu'on a un découpage en grands bassins versants, mais qui sont plutôt à l'échelon régional, et eux, ils vont gérer tout ce qui est politique de l'eau, gestion de leur qualité aussi biologique
et chimique. Il n'y a pas de contact
ils travaillent ensemble, mais c'est compliqué.
D'accord, je comprends. Donc effectivement, quand vous dites la fragmentation, il y a de là, c'est que ça ne fonctionne pas de façon circulaire en fait.
Voilà, exactement. Et aussi, ces aspects eau sont vraiment gérés en déconnexion d'autres aspects. Il y a des plans clairs. Alors les plans climat, air, énergie les plans PCAET. Ça, ce sont donc, en gros, ça gère tout ce qui est au niveau transition écologique et énergétique, sauf l'eau. Donc, tous les aspects eau sont séparés, et après, on a tout le reste de l'autre côté.
Donc, quelque part, effectivement, ça peut sembler un non-sens de ne pas rapprocher tous ces secteurs qui sont imbriqués les uns avec les autres.
Voilà, tout à fait.
C'est ça. Le GIEC vient de rendre son dernier rapport à la fin de ce mois de février, et on ne peut que constater que les sécheresses et autres conséquences du changement climatique suscitent une inquiétude grandissante quant au manque d'eau. Alors, selon vous, en quoi peut-il être indispensable de réfléchir pour demain à nos modes de vie, nos priorités, pour faire face aux défis du XXIe siècle et préparer la résilience hydrique de demain?
Donc, tout d'abord, il faut reparler de ce qu'on appelle le manque d'eau. Et quand on parle d'un manque d'eau, en premier lieu, il faut s'interroger sur nos besoins. Donc, quand on dit qu'on manque d'eau, en général, on commence à parler de ça lorsque nos besoins ne sont plus satisfaits. Mais qu'est-ce qu'un besoin, finalement? Est-ce que si demain j'ai envie de m'acheter une voiture de sport, mais que mon banquier me dit « Non, là, ça ne va pas passer au niveau de vos finances, c'est vraiment pas possible », est-ce que je dirais « Ah ben là, il me manque d'argent parce que je ne peux pas m'acheter une belle voiture de sport ?» Eh bien, non, J'ai pas besoin d'une voiture de sport pour vivre correctement, ni même pour me déplacer.
Vous êtes en train de nous dire qu'en fait nos besoins en eau sont peut-être un peu superflus parfois.
Voilà, donc on peut parfois se réinterroger sur cette notion de besoin. Et en fait, quand on parle de besoin, on sait que, en tout cas, il y a deux limites. Il y a la limite inférieure qui est le besoin vital de l'eau, c'est-à-dire il faut pouvoir se nourrir, boire un minimum pour pouvoir survivre, ça tout le monde le sait. Mais il y a une limite supérieure, c'est la quantité d'eau qu'on va pouvoir extraire ou exploiter dans son milieu à un temps et à un lieu donné. Et ça, ce sont les deux bornes supérieures et inférieures. Et normalement, il faut un curseur qui soit raisonnable entre les deux, c'est-à-dire pas simplement avoir suffisamment d'eau pour survivre, parce que c'est très désagréable, évidemment, mais il ne faut pas non plus aller jusqu'à l'exploitation totale des ressources disponibles à un temps donné. Et disponible, quand je dis disponible, il faut aussi comprendre qu'elles ne doivent pas être seulement disponibles pour nous, mais aussi, évidemment, pour la biodiversité, au sens très large, que ce soit les poissons dans l'eau, ou les forêts, ou les zones humides, etc. Donc ça, c'est très important, réinterroger en fait cette notion de besoin. Elle pointe du doigt le fait qu'on a depuis trop longtemps abordé l'hydrologie sous l'angle purement technique, l'angle purement scientifique, au sens science dure, alors qu'aujourd'hui, ben, pour réinterroger nos modes de vie et nos usages, il va falloir faire entrer beaucoup de sociologie finalement et de regarder vraiment l'impact que ça a de mettre en mouvement les personnes pour qu'elles prennent en main ces enjeux, qu'elles se les approprient et qu'elles effectuent une transition qui ne soit pas seulement énergétique, comme on vient de l'évoquer avant, mais qui soit aussi hydrique, une transition où on va changer nos modes de consommation de cette ressource qui est primordiale, mais qui est aussi très fragile.
Alors c'est vrai qu'on nous parle beaucoup des émissions de CO2, mais vous le dites, on nous parle moins de H2O.
Alors oui, les questions de l'eau passent souvent à un autre plan par rapport aux questions énergétiques qui sont très fortement liées aux émissions de CO2 et donc au réchauffement climatique. Et pourtant, le rapport du GIEC est assez clair sur ces questions. Alors là, je parle du rapport du GIEC qui est sorti en août 2021. Donc c'est le premier groupe de travail du GIEC. Qui regardent les bases physiques en fait du changement climatique. Et eux, ils sont assez catégoriques là-dessus. Les populations globalement dans le monde vont ressentir les effets du changement climatique en premier lieu à travers un bouleversement du cycle hydrologique planétaire. Donc, en gros, en clair, il va y avoir de plus en plus d'extrêmes climatiques, que ce soit des ouragans, des inondations, des tempêtes extrêmement de plus en plus violentes, ou des sécheresses de plus en plus marquées et de plus en plus longues. Et c'est ça le gros souci, c'est qu'en gros, l'eau, donc le cycle hydrologique, est un des premiers vecteurs dont les personnes en fait, dans le monde vont souffrir et à cause de ce changement global. Ouais.
Et sûrement que ça concernera les populations de certains pays déjà en grande difficulté, plutôt que nos pays plus préservés. Voilà. Et plus riche.
Alors, il faut savoir que déjà, à l'heure actuelle, il y a 4 milliards de personnes qui subissent des très forts stress hydriques au moins un mois durant l'année. Et il y a un demi-milliard qui subit ça toute l'année. Donc, c'est vraiment très conséquent. Et évidemment, malheureusement, on le sait déjà depuis les rapports du GIEC précédent, hein, de la précédente phase d'évaluation qui était autour des années 2013-2014, on sait déjà... et même ceux d'avant d'ailleurs, on sait déjà que ça va s'empirer en fait et que les populations les plus vulnérables sont malheureusement les populations qui se trouvent dans les zones les moins développées de la planète.
En tant que citoyen au quotidien, j'ai bien entendu ce que vous disiez, c'est à chacun de prendre en compte cet enjeu. Comment dans notre quotidien remettre peut-être en question nos modes de vie, nos habitudes pour justement essayer de répondre à ces enjeux du 21e siècle.
Voilà, alors effectivement, on vient de parler des personnes qui seraient le plus vulnérables dans le monde entier, mais c'est vrai qu'à notre échelle, ici en Périgord, on ne va pas être épargné non plus sur le plan déjà du changement climatique, mais en particulier du stress hydrique. Il faut savoir que les modèles qui ont été faits, les rapports qui ont été produits sur la question prévoient d'ici 2050 une baisse de 20 à 40% des débits de rivières au niveau, sur tout le bassin Adour-Garonne. Donc ça, on va dire que grosso modo en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable du tout si ça se produit. Donc ça, c'est pour un scénario de 2 degrés à l'horizon fin de siècle. Et on n'est pas sur là, pour l'instant, on suit une trajectoire qui serait plus à 3 degrés, voire plus. Donc, pour vous dire quand même que on doit se bouger aussi pour garantir cette transition hydrique sans heurts. Parce que c'est vrai que dès qu'il commence à y avoir des tensions sur les usages et sur les besoins des usagers, des agriculteurs, des industriels, y a des tensions très fortes qui se créent. Et ça, c'est toujours difficile à résoudre et ça va être de plus en plus compliqué. Donc, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il ne suffit pas seulement, je dirais, pour être un peu caricatural, de fermer l'eau du robinet lorsqu'on se brosse les dents. Ça, normalement, ça devrait déjà et de loin être fait. Et d'ailleurs, avant de dire ce qu'on peut faire, il faut dire que depuis le début des années 2000, la consommation en eau des usagers en France a baissé.
Ce qui est plutôt positif.
C'est plutôt positif. Il faut aussi rappeler en fait qu'il y a déjà des efforts qui ont été faits et ils ont fonctionné. C'est-à-dire qu'on est sur une bonne voie. Alors là, je prends des chiffres qui sont entre le début des années 2000 et 2013. J'ai pas trouvé de chiffres plus récents, mais on voit quand même qu'il y a déjà eu des politiques assez volontaristes pour que les gens baissent leur consommation, pour qu'ils se responsabilisent, pour qu'on ait des appareils électroménagers, notamment lave-vaisselle, machine à laver, qui soit moins consommateur d'eau. Et donc ça, c'est des efforts qui ont été faits. Il faut aussi le souligner. Quand les choses fonctionnent, ils sont sur la bonne voie, il faut souligner ces
Sans
efforts.
Sans faire d'humour, il faut regarder le verre aussi à moitié plein.
Voilà, exactement.
Ce que vous dites.
Néanmoins, on sait aussi que les problèmes vont s'aggraver. Donc il va falloir faire encore plus d'efforts, malheureusement, mais aussi heureusement, pour garantir notre bien-être. Et donc, ce qu'on peut faire à notre échelle, alors il y a plusieurs choses et qui sont notamment liées aussi, qui vont pouvoir faire, je dirais, d'une pierre deux coups. Par exemple, manger moins de viande. On sait que ça a un impact positif sur les émissions de CO2, mais aussi sur la consommation d'eau. Alors, c'est pas pour stigmatiser les gens qui mangent de la viande ou ni les éleveurs qui produisent de la viande. Moi-même, je mange de la viande, j'ai rien contre ça, c'est juste qu'il va falloir peut-être produire de manière plus raisonnable avec plutôt des animaux qui vivent en prairie plutôt que dans des hangars et qui mangent du maïs, par exemple.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faut revenir à un modèle agricole d'il y a 30, 40 ans
ancestral? Ça serait le top, parce que on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. On n'en a pas besoin pour survivre. Alors, je sais qu'on est quand même en France, notamment et en Périgord, dans une région qui aime la gastronomie, et la viande fait partie de cette gastronomie, et c'est aussi culturel, ça. Et j'ai pas envie qu'on efface tout ça du jour au lendemain. Par contre, il va falloir quand même se raisonner et se limiter un tout petit peu, parce que sinon, ça va être la catastrophe. Donc, il faut un entre-deux, et il va falloir pouvoir, en fait, rentrer tout ça dans un cadre qui est très bien défini par la quantité qui sera disponible pour tout le monde, y compris les êtres vivants. Donc ça, à son échelle, ce qu'on peut faire, et on va faire une pierre deux coups, on va se forcer petit à petit à réduire sa consommation de viande, par exemple. Et donc ça a un impact très fort, en fait, sur les ressources en eau et sur la production de gaz à effet de serre. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a une chose qui est peut-être, qui est vraiment pour l'instant pas vraiment faite encore, mais qui serait très courageuse à faire, et aussi un peu tabou, c'est l'histoire des toilettes sèches. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que quasiment tout le monde fait ses besoins dans de l'eau potable. Alors que à l'autre bout du monde, parfois, les gens doivent faire... 3 heures de marche à pied sous le soleil pour trouver un minimum d'eau pour tous leurs besoins quotidiens. Et nous, on fait nos besoins dans de l'eau potable. Et c'est un gaspillage qui est monstrueux. C'est très compliqué, c'est un peu tabou d'en parler. Mais je pense que notamment dans les milieux ruraux où il y a beaucoup de bâtiments qui seront éventuellement à rénover pour accueillir une nouvelle population et les populations des villes qui, normalement, au bout d'un moment, vont revenir à la campagne parce que énergétiquement, une ville, ce n'est pas soutenable, eh ben, il y a une possibilité d'inclure tout de suite dans les rénovations, pourquoi pas, voilà, tout simplement, les toilettes sèches qui vont permettre de diminuer donc, la consommation d'eau potable et donc la production d'eau potable qui est aussi très énergivore. Donc la production et après le traitement derrière, tout ça est très énergivore. Mais aussi, ça va permettre de conserver aussi des nutriments parce qu'on va pouvoir le composter ensuite et fertiliser pour remplacer certains engrais qui aujourd'hui sont essentiellement dérivés du gaz. Et on sait qu'aujourd'hui, avec le contexte actuel, la dépendance au gaz qui nous fait dépendre de certains régimes oligarchiques, c'est pas vraiment une très bonne chose.
Alors pour les gens qui peuvent se sentir frustrés de ne pas avoir de toilettes sèches et de ne pas pouvoir momentanément en mettre, quelles autres possibilités on pourrait avoir, si ce n'est qu'effectivement on marche sur la tête de faire ses besoins dans de l'eau potable. C'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte, je crois qu'on est en train de prendre conscience du fait que c'est complètement, ça n'a pas de sens quelque part.
Oui, voilà, il y a d'autres choses qui sont intéressantes à faire, c'est-à-dire éviter de laver sa voiture. Il suffit de la mettre un jour où il pleut sous la pluie, de frotter un petit peu. Ça permet d'économiser de l'eau potable. Et après, c'est tout un tas de petits gestes aussi du quotidien qui sont importants. Au final, on l'a vu, voilà, comme je l'ai dit, depuis les années 2000, ça a baissé. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a eu cette conscientisation. Mais on doit aller encore plus loin. Mais après, c'est vraiment les autres secteurs, c'est-à-dire agricoles et industriels, qui vont aussi consommer énormément d'eau. Et c'est aussi à ces niveaux qu'il va falloir tenter de réduire la facture énergétique et hydrique. Et ça, c'est pour un citoyen lambda, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'a pas forcément la main à part par son mode de consommation de certains objets. Donc il y a les vêtements, par exemple, qui sont énormément consommateurs d'eau, alors délocalisés, parce que nous, on ne produit pas beaucoup de jeans en France, il me semble. Mais dans d'autres pays, on va devoir utiliser beaucoup d'eau pour tous les processus industriels liés à la production de vêtements. Et cette eau est très fortement polluée et souvent maltraitée, voire pas traitée du tout dans ces pays. Et ça, indirectement, on a un impact aussi hydrique à l'extérieur de nos frontières, tout comme on a un impact carbone à l'extérieur de nos frontières. Et ça, il faut y réfléchir sérieusement, parce que souvent, ça se passe dans des pays où la population est plus fragile face à ces bouleversements climatiques à venir.
Et d'un autre côté, cette population qui fabrique ces vêtements a besoin aussi de cette industrie pour vivre.
Oui, c'est quelque part. Elle a besoin de cette industrie pour vivre. Je sais pas, là on en revient à la question des besoins. Qu'est-ce qui est un besoin? Ce sont des choses extrêmement complexes qui mélangent vraiment tout un tas de domaines dont moi-même je ne suis pas forcément expert. La géopolitique, la politique tout court, l'économie. Donc ça, ce sont des choses à revoir et c'est bien l'une des raisons essentielles pour lesquelles il faut que tous les spécialistes commencent vraiment à travailler ensemble. Quel que soit leur domaine de spécialité. Il y a 20-30 ans, il était impensable que les hydrologues aillent travailler avec des sociologues ou que des énergéticiens aillent travailler avec des hydrologues, par exemple, pour faire ça de manière caricaturale. Mais aujourd'hui, on se rend compte dans la communauté de chercheurs qu'on va devoir se mettre à toute vitesse à travailler ensemble parce qu'il y a énormément de problèmes qu'on ne peut pas résoudre simplement avec son approche disciplinaire strict. Il faut pouvoir ouvrir les disciplines pour résoudre ce type de questions.
Quand vous dites à toute vitesse?
Oui, parce que le dernier rapport, celui du 28 février 2022, le rapport du GIEC, écrit noir sur blanc que la fenêtre de tir qui nous reste pour que ça soit gérable, pour que l'ensemble des problèmes auxquels on va avoir le droit de toute façon, au niveau mondial, pour s'adapter à ces problèmes, il nous reste peu de temps en fait. Et ils disent pas exactement combien de temps il nous reste parce que c'est impossible à estimer, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est cette décennie ou jamais.
Donc la réutilisation des eaux usées traitées dans une approche circulaire est une des solutions actuelles utilisées pour répondre aux enjeux de tarissement de la ressource en eau. Vous en pointez malgré tous les limites.
La réutilisation des eaux usées traitées, ou REUT en abrégé, a certaines limites qui aujourd'hui sont peu pointées du doigt parce qu'il y a cette politique volontariste de justement déployer ces méthodes qui peuvent justement pallier à un supposé manque d'eau en France. Alors quand on déploie cette politique publique parce qu'on dit souvent que la France est en retard par rapport à d'autres pays, notamment européens. On pense souvent à l'Espagne qui est leader en la matière en Europe, ou à d'autres pays du monde comme Israël qui est vraiment le leader mondial de ce type de technique. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent de préciser que la France n'a pas du tout la même situation hydroclimatique que ces deux pays qu'on vient d'évoquer, notamment Israël, qui est dans une région méditerranéenne très, très sèche, qui est dans une situation géopolitique très compliquée, alors même qu'elle dépend, pour ses ressources hydriques, de fleuves qui viennent l'abreuver de l'extérieur de ses frontières, et qui peut être justement un argument après pour faire pression sur cet État. Donc il a tout intérêt à développer des méthodes extrêmement, optimisé pour la gestion de ses ressources hydriques et de ses consommations. Donc ça, ce sont deux choses très différentes. En France, on ne dépend presque pas du tout de ressources qui viennent de l'extérieur de nos frontières. C'est vraiment tout tombe, la pluie tombe vraiment sur le sol français et il transite où il reste, mais on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Et on a aussi un climat beaucoup plus favorable, beaucoup plus tempéré, qui nous permet d'avoir quand même vraiment beaucoup de ressources. Donc la REUT, il faut se dire que qu'est-ce que c'est la REUT ? C'est au lieu de traiter les eaux usées des particuliers, donc de tout ce qui sort des canalisations des usagers domestiques, au lieu de le traiter, de le renvoyer dans les cours d'eau, on va pas le renvoyer dans les cours d'eau. On va le traiter peut-être un tout petit peu moins et on va l'utiliser par exemple en agriculture ou pour arroser des espaces verts, des golfs, etc. Alors on peut se dire ça paraît bien parce que finalement qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de laisser partir une ressource qu'on pourrait utiliser, on l'utilise pour autre chose. Oui, sauf que il n'y a jamais d'eau qui disparaît et l'eau qu'on remet à un endroit va servir en aval pour d'autres écosystèmes, pour d'autres usagers éventuellement en aval. Et donc l'eau qu'on retient sur notre territoire et qu'on utilise sur notre territoire, potentiellement va repartir par évapotranspiration. Alors certes, on l'aura utilisée entre-temps, mais on n'aura quand même pas réglé le problème. On aura toujours utilisé cette ressource. Et elle n'aura pas été disponible pour d'autres en aval comme normalement c'est prévu. Le chemin normal de l'eau, c'est en amont, on prend de l'eau, on l'utilise et on la restitue en aval, certes avec un délai, mais ça ne, y a pas de grosse perte nette entre les deux. Donc ça, c'est le premier point. Donc finalement, on fait sortir un petit peu plus d'eau du système en forçant cette eau qui aurait été restituée dans les rivières, en la forçant à être évaporée. Donc ça, c'est l'une des premières choses. La deuxième chose, c'est que dans ces politiques publiques, on parle souvent de REUT, mais on ne dit pas comment on va substituer cette ressource, comment on va réduire les prélèvements, pour justement tenir en compte le fait qu'on utilise la REUT plutôt que les prélèvements directs, par exemple, pour l'agriculture. Donc, si un agriculteur qui voudrait réutiliser cette eau usée traitée pour arroser ses champs, comment on va contrôler derrière qu'il ne prélève pas aussi la même quantité ou plus d'eau, finalement, au global, par rapport à sa consommation normale ? Donc, est-ce que ce n'est pas une ressource, finalement, qui viendrait s'ajouter plutôt qu'une ressource qui viendrait se substituer à un prélèvement qu'on ferait. Et ça, il n'y a aucune garantie là-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est finalement, on pense qu'on va optimiser certaines choses, mais finalement, on finit à la fin par consommer plus d'eau qu'au départ. Et donc, il y a aussi tout l'aspect énergétique qu'il y a derrière pour traiter ces eaux. Pour traiter ces eaux, il faut de l'énergie, il faut des infrastructures qui sont énergivores parce qu'il faut les entretenir, parce qu'il faut les construire. Et justement, vu qu'on parlait de cette connexion entre les secteurs énergétiques et le secteur de l'eau, rendre certains usages de l'eau trop dépendants à l'énergie, c'est risquer justement finalement que un manque d'énergie puisse nous priver d'une ressource en eau.
Donc le jeu n'en vaut pas la chandelle en fait de compte.
Alors, je sais que ça sera que c'est très tabou ce que je dis là et que c'est pas forcément l'avis de tout le monde, loin de là. Et je dis pas non plus que la REUT ne doit pas être une solution explorée au cas par cas dans certaines situations. Il y a sans doute des situations où ça vaut le coup, mais je pense qu'avant de déployer massivement ce type de technique, il faut toujours d'abord se réinterroger sur nos usages, baisser notre consommation dans tous les secteurs, avant de trouver des ressources de substitution pour remplacer, entre guillemets, l'eau qu'on n'aura pas dans le futur à cause des changements climatiques.
Alors, ça fait un peu une transition par rapport justement à l'agriculture. Alors, c'est vrai que l'agriculture est gourmande en eau, comme beaucoup d'autres usages, industriels notamment. Vous parlez à un moment donné de peut-être exploiter plus le levier agricole justement pour essayer de reconquérir cette qualité de l'eau et la biodiversité notamment. Alors comment un agriculteur peut résoudre cette équation qui n'est pas si simple au final?
Alors l'équation n'est pas simple du tout. Et en général, les agriculteurs, ils connaissent très très bien leur terrain, ils connaissent bien leur patrimoine, on va dire, naturel. Ils travaillent la terre, ils travaillent le sol, et ils sont en première ligne, finalement, de la lutte contre le changement climatique, et ce, globalement, en fait, sur toute la planète. Ce sont vraiment les plus importants, mais aussi, paradoxalement aussi, les plus vulnérables à tous ces changements, puisque dès qu'il y a une sécheresse ou des pluies diluviennes ou des invasions de criquets dans certains pays, ce sont les récoltes qui sont vite ravagées et donc ils en pâtissent aussi en premier lieu. Donc c'est vraiment le secteur qui va agréger vraiment toutes les problématiques, mais aussi du coup autour duquel on peut bâtir toutes les solutions, c'est vraiment l'agriculture. On peut prendre un exemple, on sait que les sols ont été un petit peu, même beaucoup, appauvris par l'agriculture intensive qui notamment utilise le labour profond pour retourner le sol, et ça on sait que ça le déstructure par exemple et que ça le fait perdre en biodiversité, notamment microbienne, en champignons, etc. Et en fait, toute cette structure du sol, ce microbiote qu'il y a dans le sol qui lui donne sa structure, le fait fonctionner correctement, fait circuler les nutriments correctement, c'est aussi le gage de la rétention d'eau dans les sols. Et cette rétention d'eau dans les sols est extrêmement importante parce que c'est ce qui va aussi permettre d'infiltrer l'eau en profondeur. Mais il faut savoir que les meilleurs réservoirs dont nous disposons, ce sont les eaux souterraines. Ce ne sont pas les quelques bassines ou quelques réservoirs, lacs-réservoirs qu'on pourrait bâtir à la surface qui vont pouvoir venir combler l'immensité des réserves souterraines que l'on a, mais qui sont quand même, malgré tout, plus difficilement accessibles. Non, ça dépend des endroits, évidemment, mais en général, un peu moins facilement accessibles que les eaux de surface. Néanmoins, ce sont vraiment des grands stocks, mais qui ont la capacité de retenir l'eau très longtemps. Donc ça, c'est une importance fondamentale, parce que en général, comme quand on a plus d'eau l'hiver, en général un peu plus de précipitations et surtout moins d'évaporation l'hiver, donc c'est là où les stocks se remplissent, mais l'eau souterraine va vraiment permettre de garder ce stock en place sur une très longue période pendant plusieurs mois et du coup nous permettre de passer des périodes un peu plus sèches, estivales. Et donc en régénérant les sols, donc par une agriculture plus respectueuse de ce microcosme dans les sols et de la structure des sols, on va pouvoir infiltrer plus en hiver, et plus on infiltre en hiver, plus on recharge les nappes phréatiques, et plus on a de ce qu'on appelle de résilience dans le temps au niveau des ressources en eau, c'est-à-dire qu'on conserve longtemps la mémoire de cette recharge des aquifères qui après réalimentent les rivières.
Donc il n'y a pas d'histoire de captage de l'eau avec un puits par exemple pour ces eaux souterraines? un moyen de capter.
Si, si. Alors, les eaux souterraines sont exploitées pour l'alimentation potable, parfois pour l'agriculture, même souvent dans certaines régions du monde, exclusivement pour l'agriculture. Mais ce que je veux dire par là, c'est que régénérer les sols, c'est toujours un gage d'avoir un stock d'eau souterraine beaucoup plus important, parce qu'au lieu de ruisseler sur des sols qui sont peu perméables, qui sont facilement soumis à l'érosion notamment, on va pouvoir mieux infiltrer, notamment avec tout ce qui est protection autour des parcelles, les haies, les choses comme ça vont pouvoir venir infiltrer l'eau. Et cette infiltration est vraiment extrêmement importante parce qu'elle recharge les compartiments, les réservoirs les plus importants dont on dispose.
Donc un agriculteur aujourd'hui qui a augmenté sa surface agricole, qui est dans une dynamique d'agriculture intensive, ne peut pas changer radicalement du jour au lendemain. Comment faire ?
Alors c'est vrai que les agriculteurs ont déjà beaucoup de choses sur les épaules. Ils ont énormément de problématiques à gérer et ils sont d'un courage qui est hallucinant, qui est énorme, et le respect qu'on doit avoir pour eux doit le laisser transparaître. Maintenant, c'est vrai que l'agriculture, justement, comme elle cristallise toutes les problématiques, ou en tout cas beaucoup, elle agrège beaucoup des problématiques de notre temps, que ce soit au niveau énergétique, au niveau biodiversité, au niveau ressources en eau, et justement, comme on disait, ça peut être aussi l'occasion de cristalliser toutes les solutions qui sont autour de ça. Il devrait y avoir justement un investissement massif en fait dans l'agriculture de demain, parce que ça va nous permettre de résoudre tout un tas de problèmes d'un coup en fait. Et justement, l'aide aux agriculteurs doit être l'une des priorités, je pense, des prochains mandats électifs par exemple. C'est vraiment dans l'agriculture qu'il faut miser, parce que c'est dans les territoires ruraux qu'il faut revitaliser, il va falloir de la main-d'œuvre, on a des problèmes d'emploi, donc il y a beaucoup d'emplois qui devraient être pourvus dans une agriculture peut-être moins intensive, et du coup il faut un peu plus de main-d'œuvre, et ça il va falloir l'organiser, le gérer. C'est pas l'hydrologue aujourd'hui qui va vous dire comment faire, parce que c'est pas ma spécialité, mais je pense qu'avec un peu de matière grise et un peu de bonne volonté et d'huile de coude, on devrait pouvoir réussir une telle transition. Mais en fait, il y a vraiment besoin de les accompagner, notamment financièrement. Il faut que ça soit massif, parce que ce n'est pas une dépense publique comme les autres, c'est un investissement pour l'avenir, pour les futures générations notamment, même pour nous, mais aussi pour les futures générations. Et c'est indispensable d'investir là-dedans, parce que si on ne le fait pas, l'agriculteur de demain, il va être dans une situation pire que celle d'aujourd'hui. Il va être de plus en plus dépendant aux énergies fossiles, mais ça n'a aucun sens, puisqu'on sait qu'on doit devoir baisser notre consommation d'énergie fossile, et que de toute façon, même si on ne veut pas la baisser, un jour ou l'autre, il n'y en aura plus. Donc il a tout intérêt, ils ont tout intérêt à changer leurs pratiques, mais il ne faut pas leur dire « bon, vous n'avez qu'à changer vos pratiques, mais on vous laisse vous débrouiller ». Absolument pas, il faut absolument les accompagner dans une transition, certes qui a l'air d'être l'inverse de ce qu'on leur a demandé de faire les dernières décennies, mais malheureusement, il faut reconnaître qu'on s'est bien trompé, qu'on a profité de cette abondance énergétique, cette abondance de tout, d'eau et de matières premières, mais que ça, c'est fini, il faut falloir couper les robinets à tous les étages et revenir à des choses un peu plus fondamentales. Et ça, évidemment, c'est une transition qui doit s'accompagner et qui doit faire l'objet de politiques vraiment très volontaristes dans les années qui viennent.
Donc ça fait 3 ans que vous êtes installé en Périgord, et donc vous avez, à côté de votre activité de chercheur, associé à l'école des mines, c'est ça?
Oui.
Vous avez aussi une activité de consultant qui peut parfaitement, et qui est adaptée justement aux questionnements et aux problématiques des élus.
Voilà, alors là, c'est vrai que pour tous ces enjeux transversaux dont on a parlé dans ce podcast, et notamment les enjeux de ressources en eau, il y a un problème fondamental, c'est que la plupart de ces problématiques vont toucher les territoires ruraux. Or, les centres, on va dire, d'études et les centres de connaissances classiques se situent dans les pôles urbains, classiquement. Et donc, dans les territoires comme la Dordogne, lorsque, par exemple, un élu veut poser une question ou lorsqu'il veut se procurer de l'information à tout niveau dans ces domaines, lorsqu'il veut être accompagné pour comprendre par rapport à son territoire quels seront les impacts du changement climatique, de diverses orientations politiques, environnementales, etc., ben, il doit se tourner vers ces bureaux d'études ou ces centres universitaires qui sont loin de son territoire et qui ne sont pas forcément toujours disponibles, pas forcément faciles à solliciter. Et du coup, je me suis dit, moi, bon, certes, je suis tout seul, je suis à mon compte, mais je me suis dit, plutôt que de rester en ville à pratiquer dans mon coin ma recherche, j'ai envie de m'installer dans un territoire rural et de voir ce que je peux faire. Et justement, en parallèle de mes activités de recherche et aussi d'enseignement bientôt, parce que j'enseignerai bientôt dans une école d'ingénieur, j'ai envie vraiment de m'implanter localement, de voir ce que je peux faire. Alors, ce sont des choses qui se construisent très lentement parce que je suis tout seul et qu'il y a beaucoup de batailles à mener dans ce domaine, on va dire, et qu'il y a eu aussi la pandémie qui est passée par là et qui n'a pas été propice, on va dire, à la prise de contact généralisée. Mais c'est vrai que dans les années à venir, j'aimerais développer ce soutien à ce tissu local d'acteurs, et notamment les élus, mais pas que, ça peut être n'importe quel acteur, les associations, les collectivités locales de manière générale.
De manière générale, les entreprises peut-être aussi dans leurs usages.
Pourquoi pas, oui, effectivement, ça peut être une chose. Et donc de développer un volet formation, un volet accompagnement pour comprendre tous ces enjeux, pour voir comment on peut agir à son échelle, et pour s'approprier vraiment ces connaissances, mais aussi dans un souci d'échange, parce que moi j'ai encore aussi beaucoup à apprendre dans ces domaines, et je ne pense pas que les chercheurs doivent se penser comme des surhommes ou des surfemmes qui ont la connaissance de tout. Au contraire, on doit être extrêmement humble par rapport à la complexité de notre environnement, de notre planète, et des interactions humaines aussi. On le voit aujourd'hui, il y a des choses qui sont incompréhensibles, qui se passent tristement à l'est de l'Europe. Et donc ça, c'est en agissant localement avec d'autres acteurs aussi. Je ne suis pas le seul chercheur que j'ai retrouvé là en Dordogne. Il y en a d'autres qui sont venus s'implanter et qui ont envie de construire cette synergie pour faire le lien entre ces pôles, on va dire, technologiques, techniques et scientifiques qui sont dans les centres urbains et les territoires ruraux où, en fait, vont se jouer la plupart des enjeux de transition. Parce que, on l'a dit, l'agriculture, ça se passe ici, ça ne se passe pas en ville. La biodiversité, elle se trouve où? Majoritairement, quand même, encore dans les campagnes, dans les zones humides et dans les territoires ruraux où ces espaces naturels, comme en Dordogne, sont encore heureusement préservés par une population qui tient à son patrimoine naturel. Et donc ça, c'est très important. Et être à leur côté et vraiment être vraiment physiquement là et être disponible localement, je trouve que c'était important de venir vivre ici pour poursuivre ma carrière.
Juste une dernière question, pourquoi le Périgord?
Alors ça, c'est plus pour des raisons, on va dire, familiales et des raisons professionnelles de ma compagne. Et moi, j'ai suivi ma compagne, on s'est installé ici et moi, j'ai développé mon activité pour ça.
Alors, pour les personnes qui voudraient en savoir davantage, elles peuvent aller plus loin. Vous avez créé un site avec un blog que vous alimentez régulièrement et qui s'appelle Terra Science, Terra, par rapport à la ville où vous habitez, Terrasson,
voilà. C'est ça? Donc c'est un petit peu un jeu de mots, Terra Science, parce que dans Terra Science, il y a Science de la Terre, c'est le nom de mon diplôme, je suis docteur en sciences de la Terre, spécialisé en hydrologie, mais c'est le cadre général, c'est les géosciences, les sciences de la Terre. Donc Terra Science, mais aussi Terra Son, ça fait penser à l'endroit où en effet j'habite et j'ai créé mon petit cabinet de conseil.
Merci beaucoup Jonathan.
Merci à vous.